Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le gouvernement fixe 3 mois de carence pour les demandeurs d'asile avant qu'ils puissent accéder à la sécurité sociale de base. Une annonce officialisée demain, mais qui fait déjà réagir les associations. Pourquoi cette mesure? Réponse dans un instant. Vous entendrez ensuite l'appel d'Emmanuel Macron depuis la Chine sur le climat. Bruxelles et Pékin, dit-il, doivent s'allier pour lutter contre le réchauffement climatique. Hier soir, les États-Unis ont enclenché leur départ de l'accord de Paris. Et puis, zoom sur l'impasse politique en ce moment en Espagne, dans un pays qui enchaîne les élections depuis 4 ans et dont les partis se fragmentent. Des élections législatives auront lieu ce dimanche. Le gouvernement veut donc durcir les conditions d'accès aux soins pour les étrangers. Le Premier ministre Édouard Philippe recevait hier soir à Matignon plusieurs parlementaires de la majorité qui y travaillent sur ce sujet. Il annoncera officiellement 20 mesures sur les questions d'immigration et sur l'intégration demain. Mais on sait déjà qu'il est question d'un délai de carence de 3 mois, un délai imposé aux demandeurs d'asile avant qu'ils puissent accéder à la sécurité sociale de base. La mesure n'est en fait pas vraiment surprenante, puisque c'est un souhait, Simon Le Baron, un souhait du président de la République lui-même.
Trop généreuse, la protection universelle maladie à laquelle les demandeurs d'asile ont droit en théorie dès le dépôt de leur dossier. Beaucoup plus généreuse en tout cas que l'AME, l'aide médicale d'État accordée aux sans-papiers. Voilà ce que disait Emmanuel Macron jeudi dernier dans le magazine Valeurs Actuelles, annonçant compter sur ce délai de carence pour réguler cette aide. Une aide trop souvent dévoyée par des demandeurs d'asile venus en fait de pays sûrs comme la Géorgie ou l'Albanie, avait déjà dénoncé de son côté la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Autre cible du chef de l'État, dans son entretien à l'hebdomadaire de la droite, ceux qui abusent de l'AME, justement, en quelque sorte des touristes sanitaires, selon le président. Le gouvernement devrait donc demander à la sécurité sociale de donner son accord préalable pour certains actes non urgents. Un durcissement accueilli de manière contrastée dans la majorité. Logique, estime un député ancien chiracien, quand sa collègue venue de la gauche critique un pur message politique envoyé à la droite.
C'était Simon Le Baron. L'Assemblée nationale a adopté cette nuit le projet de budget 2020 pour le ministère de la Transition écologique. Le soutien aux énergies renouvelables, la biodiversité et l'eau sont quelques-unes des priorités gouvernementales pour une enveloppe en hausse de 2,6%, soit 32 milliards d'euros au total. Pas de quoi convaincre toutefois les députés de gauche qui y voient un saupoudrage de mesures écologiques et une insulte à notre avenir, ce sont leurs mots. Le climat, défendu publiquement et à l'international par Emmanuel Macron hier. Quelques heures après la confirmation américaine, les États-Unis demandent officiellement à quitter l'accord de Paris. Ils l'ont dit hier soir. Les démarches ont donc commencé et le président français en visite en Chine a lancé un appel à la mobilisation générale sur le climat.
Si nous voulons être dans le respect de l'accord de Paris, il nous faudra l'année prochaine rehausser nos engagements en matière de réduction d'émissions. Il nous faudra l'année prochaine confirmer de nouveaux engagements pour 2030 et 2050. Et la coopération, à ce titre, entre la Chine et l'Union européenne est décisive. La place que la Chine, le gouvernement, l'ensemble des provinces, l'ensemble des investisseurs et des entreprises ont joué a été décisive ces 2 dernières années. Il nous faut l'année prochaine que dans l'agenda de rehaussement, soyons aussi collectivement au rendez-vous.
C'était Emmanuel Macron, des propos recueillis par Dominique André. Alors que le président français a ouvert cette nuit la foire internationale des importations de Shanghai, il était avec son homologue chinois Xi Jinping et il a d'ailleurs appelé ce dernier à consolider l'ouverture du marché chinois à l'international. Le commerce et la Chine encore avec cet accord de libre-échange impulsé par Pékin. Il s'appelle RCEP et il devait être le plus large de la planète, mais après plusieurs jours de négociations, l'Inde a annoncé hier soir qu'elle ne le rejoindrait pas comme Bastin.
Ce devait être le plus vaste traité de libre-échange du monde, réunissant plus de 30% du PIB de la planète et la moitié de ses habitants. Mais il vient de perdre un membre de poids. L'Inde a annoncé ce lundi 4 novembre qu'elle se retirait du projet de partenariat économique régional global, ou RCEP. Initiées en 2012, les négociations autour de ce traité s'étaient accélérées sous l'impulsion de la Chine, suite à l'abandon par Donald Trump du projet de partenariat transpacifique en 2017. Objectif pour l'Empire du Milieu, répondre au protectionnisme du président américain par une zone de libre-échange géante entre 16 pays asiatiques. mais le gouvernement indien avait prévenu qu'il ne signerait pas l'accord sans certaines garanties douanières. Déjà en déficit commercial avec la Chine, l'Inde tient à protéger son marché intérieur des importations étrangères. Après plusieurs jours de discussions infructueuses à Bangkok, la cinquième puissance économique mondiale a finalement tranché. Ce sera sans elle. Il faut dire que des rangs de l'opposition à ceux des nationalistes hindous, ce traité était loin de faire l'unanimité. Le Premier ministre Narendra Modi a donc choisi la carte de la prudence politique et évité de faire courir un risque trop grand à l'économie du sous-continent déjà à la traîne. Le RCEP ne rassemblera plus 16 mais 15 pays, parmi lesquels la Chine, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, Singapour ou la Thaïlande. Cette dernière a annoncé que sa signature se concrétiserait en février 2020. D'ici là, les membres du RCEP espèrent faire revenir l'Inde à la table des négociations.
La Grande-Bretagne a un nouveau speaker à la Chambre des communes. Il s'appelle Lindsay Hoyle. Ce député travailliste aura la lourde charge d'organiser les futurs débats sur le Brexit, dont la prochaine échéance est fixée au 31 janvier prochain. Lindsay Hoyle remplace John Bercow, parfois accusé de partialité. Mais le nouveau speaker, lui, a toujours refusé de révéler s'il avait voté il y a 2 ans pour ou contre une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et revoilà les législatives en Espagne, les quatrièmes en 4 ans. Elles auront lieu dimanche prochain. Hier, les chefs de file de 5 partis en lice se sont retrouvés pour un débat télévisé. Il s'agit des 5 partis qui avaient obtenu plus de 10% des voix lors des dernières élections. Retour sur cette soirée télévisée avec Marie-Hélène Ballestero.
Hola, buenas noches, bienvenidos al debate. 6 mois après, les Espagnols ont assisté à un nouveau débat télévisé. Mais cette fois, il y avait 5 candidats et non 4, avec l'irruption de Vox, tous prêts à briguer le poste de chef du gouvernement. Après des décennies de bipartisme, les politiques espagnoles semblent incapables de composer avec la fragmentation du Parlement. Depuis 4 ans, l'Espagne est plongée dans une crise institutionnelle. Hier soir, le candidat socialiste Pedro Sanchez est revenu longuement sur cette paralysie.
Je crois que le plus important, c'est d'en finir avec le blocage. On pourra y parvenir en votant. Et c'est pour cela que j'appelle tous les Espagnols à une participation massive le 10 novembre. On doit lever ce blocage institutionnel qui est le principal problème politique que connaît l'Espagne.
Mais la crise institutionnelle n'est pas le seul problème politique majeur en Espagne. Comme prévu, la Catalogne a été au cœur du débat électoral hier soir. Les leaders des 3 formations de droite, PP, Ciudadanos et Vox, ont dénoncé la position trop douce, selon eux, du chef du gouvernement sortant, Pedro Sanchez, à l'égard des indépendantistes.
Vu ce qui se passe en ce moment en Catalogne, pourquoi n'appliquez-vous pas la loi de sécurité nationale ? Voici un pavé de ma ville, Barcelone. C'est ce qu'on a lancé sur les agents de la police nationale et des Mossos d'Esquadra. Ce pavé représente la menace qui pèse sur la démocratie espagnole. S'il y a un problème d'ordre public, il faut le régler. On a déjà appliqué l'article 155 pour destituer Puigdemont. Destituons Torra. Nous en sommes arrivés là car un coup d'État permanent s'est produit en Catalogne et il a détruit les libertés en Catalogne.
À 6 jours des prochaines élections législatives, les chefs de file des 5 principales formations ont tenté de séduire les électeurs. Un tiers d'entre eux serait toujours indécis, alors que le taux d'abstention devrait nettement augmenter.
C'était Marie-Hélène Ballestero depuis Madrid pour France Culture. Les 120 évêques catholiques de France vont se réunir à Lourdes aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Les scandales de pédophilie seront au cœur de cette assemblée plénière. Les évêques devraient notamment évoquer une possible allocation financière pour les victimes de pédophilie. Allocation de reconnaissance, le vote se tiendra à Lourdes donc ce samedi. Après les violences urbaines de Chanteloup-les-Vignes, voici la riposte politique. 3 ministres se rendront ce matin dans cette ville des Yvelines où des policiers avaient été pris à partie samedi soir, faisant 2 blessés légers. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Ville doivent visiter ce matin les décombres du centre culturel et social détruit par les flammes, par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Côté enquête, j'ajoute que 2 individus ont été mis en examen hier. Patrick Balkany va-t-il sortir de prison ? Sa 2e demande de libération est en tout cas examinée aujourd'hui dans le volet de blanchiment de fraude fiscale. À la fin du mois d'octobre, la Cour d'appel de Paris avait déjà accepté la 1ère demande de libération. Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, a déjà été condamné, je vous le rappelle, à 4 ans de prison ferme. Il a fait appel de cette condamnation. La météo de ce mardi qui débute avec un ciel de traîne qui vient s'installer sur l'ensemble du pays, alternant entre périodes ensoleillées, passages venteux, nuageux et parfois humides, de la pluie du nord-ouest jusqu'au sud-est du pays. Comptez ce matin 11 degrés à Paris et Lille, 12 à Nantes et Strasbourg, 13 degrés à Bordeaux et à Grenoble et 18 degrés dans la matinée à Nice.